vacances. Le voici arrivé, le moment tant attendu.
Quand faut y aller, merde.
Cinérama, saison estivale.
Y'a des soleils, y'a des nanas, na-la-di-la-na.
Cinérama l'été.
On va s'en fourrer jusqu'à là, na-la-di-la-na-na.
Je vais vous tenir au courant des mesures qu'on va prendre.
À mon avis, il y aura des ouvertures.
Génial. Nous dépendons énormément de la saison d'été, c'est vital.
Cinérama l'été, on se passe de l'actualité.
Eh bien, je dois reconnaître que vous n'êtes pas comme je m'étais imaginé.
C'est une blague.
Jamais très original dans ces moments-là.
This is Cinérama.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama en mode estival. Alors qu'est-ce que ça cache? Normalement, on fait pas beaucoup de films d'actualité puisqu'on privilégie eh bien deux séries, une sur les bandes originales de films et puis une autre sur Marcel Pagnol que tu nous fais découvrir ou redécouvrir, Guillaume. Mais aujourd'hui, on a quand même quelques films d'actu. Toi, tu en as deux.
Oui, deux films d'animation, un français et un espagnol.
Quant à Sophia, qui n'a pas pu être avec nous dans les studios, elle nous parlera d'un film qui était en compétition à Cannes, c'est Eddington. Mais nous allons commencer cette émission par la première série, celle qui nous fait écouter eh bien, de la musique.
Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien. C'est de la bouillie tout ça.
Cinérama.
C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons.
Et nous allons jouer donc avec un blind test sur des bandes originales de films entre 1960 et 69. Hein, parce que plus on va avancer dans l'été, plus on va remonter vers 2025, on va dire. Donc 5 extraits, évidemment il faut soit bien découvrir le titre ou soit découvrir le compositeur. Allez, premier extrait.
A cold finger beckons you to enter his web of sin.
Bon, c'était très facile.
Oui, c'est vrai. C'était Goldfinger de John Barry pour le troisième film de la série James Bond.
Oui. Et c'est donc un thème original de Monty Norman, mais arrangé par John Barry, qui donne au thème de James Bond sa puissance et son style vraiment inimitable, puisqu'il sera sans cesse repris pour eh bien, les films suivants. Deuxième extrait de ce blind test où il faut trouver une bande originale de film entre 1960 et 69. C'était aussi facile.
Ah, c'était Les Sept Mercenaires.
Eh oui, film de 1960. Le compositeur, c'est Elmer Bernstein, qui s'initie l'un des thèmes les plus héroïques du western américain, inspiré par la cavalerie classique, mais teinté d'un modernisme orchestral. Le titre principal incarne la bravoure et l'aventure avec une énergie contagieuse. Le rythme galopant, les cuivres francs et les cordes vibrantes donnent une ampleur presque mythique à cette relecture des Sept Samouraïs de Kurosawa.
Bah, c'est le thème le plus célèbre, oui, j'ai envie de dire, avec celui de la conquête de l'Ouest.
Oui, c'est devenu une référence du genre, effectivement. Allez, troisième extrait de ce blind test, une bande originale de film à trouver.
We'll be right back.
Alors c'est trouvé encore une fois, mais on peut dire que tu apprécies énormément les bandes originales de films. C'est pour ça que j'avais décidé d'ailleurs de faire ce blind test, car la plupart des émissions durant l'été, on sera que tous les deux.
Ouais, mais c'est gentil parce voilà. Oui, j'adore vraiment ça, et c'est un plaisir d'écouter ça et de tout entendre Maurice Jarre là pour oui. Laurence d'Arabie de oui. David Lean, l'un des plus beaux films de tous les temps.
Ouais, film de 1962, et c'est l'ouverture du chef-d'œuvre donc. À la fois grandiose et poétique, Maurice Jarre, rappelé en urgence après le départ de Malcolm Arnold, livre une partition qui marie Orient et Occident avec un souffle épique. Allez, un nouvel extrait pour ce blind test. Alors c'est trouvé.
Oui, c'est Ennio Morricone qui signe, si je ne me trompe pas, c'est le thème pour Claudia Cardinal dans « Était une fois dans l'Ouest ».
Oui, effectivement, et chaque personnage a son propre thème dans le film. Là, c'est celui de Jill, Claudia Cardinal, qui, avec une mélodie de voix et de cordes. Puis Morricone utilise aussi l'harmonica, l'orchestre, la voix humaine comme instrument dramatique. Il transcende les codes du western avec une narration musicale puissante, émotionnel et souvent minimaliste. Sergio Leone disait qu'il tournait parfois les scènes sur la musique, preuve de son importance. Allez, dernier extrait de ce blind test consacré aux musiques de films. C'est trouvé, c'était facile pour toi.
Oui, c'est une BO qui est expérimentale, donc ultra mémorable du génial Jerry Goldsmith pour La Planète des Singes de Franklin Schaffner.
Et oui, film de 1968, c'est le thème principal. Effectivement, Jerry Goldsmith révolutionne la musique de film avec une partition vraiment audacieuse, avec expérimentale et angoissante. Il emploie des techniques avant-gardistes, percussions métalliques, piano préparé, écho inversé, cuivre dissonant. Il s'est mis vraiment au travail, et ce langage musical étrange et brutal reflète l'univers dystopique et animalier de La Planète des Singes.
À noter que ça semblait impossible, mais c'est Daniel Elfman qui a réussi à faire, pas tout aussi bien, mais à la hauteur, avec le remake de Tim Burton, et c'est d'ailleurs la seule chose à sauver du film. Comme quoi.
Oui, je suis presque d'accord avec toi. On se quitte avec un petit bonus. Ça aurait été facile à trouver puisque c'est le thème de la Panthère rose d'Henri Mancini. Mm-hmm. c'était le blind test consacré aux bandes originales de films entre 1960 et 69. C'est la série de l'été, une des séries de l'été, puisque la seconde, elle concerne Marcel Pagnol. Allez, on y va.
Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux ?
Cinérama.
Eh oui, on est comme on est.
Aujourd'hui, retour en 1935. Alors nous sommes tout au début de la carrière de réalisateur de Marcel Pagnol, et pourtant le film dont je vais vous parler, Ma mère Luce, est déjà le parfait représentant de tout ce qui va faire le sel de sa filmographie. Alors encore une fois, il va piocher dans sa propre expérience de professeur et d'homme de lettres pour raconter une histoire a priori enfantine, mais qui conjugue toute l'humanité qu'il voit à travers leurs yeux. Et surtout, il a déjà cette capacité à mêler récit initiatique, comédie, tendresse, mélancolie et réflexion sur le mérite.
Est-ce qu'il réussit auprès des enfants ?
Son étude est fort bien tenue. Et il y règne une discipline parfaite. Mais les enfants ne l'aiment pas. Il est borgne, il est laid.
Je crois pouvoir vous dire sans trop m'avancer qu'il préférerait certainement être beau.
Je sais. Ne croyez pas que je reproche à ce garçon de n'être pas un Adonis. Non, j'essaie de vous expliquer son atmosphère. N'est-ce pas ? Il est laid. Et comme il est célibataire, il est plutôt... Enfin, il a l'air d'être plutôt sale. Et les élèves l'appellent Mère Luce.
Mère Luce. Tiens, pourquoi ?
Ils disent qu'ils sont la morue.
Comme c'est curieux. Mais est-ce qu'ils sont vraiment la morue ?
Je ne sais pas, je ne crois pas. À mon avis, ils sont plutôt le chien mouillé. Enfin, il n'est pas sympathique aux élèves. Pour tout dire, il les terrorise.
Est-ce qu'il abuse des punitions ?
Non, avec un physique pareil. Il n'a pas besoin de punir. Dans son étude, les élèves n'ont pas peur des retenues. Ils ont peur d'être assommés. Il n'a jamais battu aucun élève. Mais les enfants ont l'impression qu'il serait capable de le faire.
Merlu, c'est le quatrième long-métrage de Pagnol en tant que réalisateur, après Le Gendre de Monsieur Poirier, Geoffroy et Angèle. Il a écrit et le tourne en quelques semaines dans son ancien lycée à Marseille, le lycée Thiers, pendant les vacances de Noël. Alors on pourrait presque parler d'un moyen-métrage car il dure à peine plus d'une heure s'il n'avait pas réussi à le rendre aussi majeur grâce à sa plume. Alors sa modestie de confection n'a d'égal que la beauté de son contenu. Le film se déroule dans un lycée de Marseille au début des vacances de Noël. Plusieurs élèves, pour diverses raisons, doivent rester à l'internat pendant les fêtes. Le directeur confie leur surveillance à Blanchard, un ancien militaire devenu pion, surnommé Merlus par les élèves à cause de son apparence peu engageante. Il a un œil de verre, il a l'air bourru, il a une voix assez rocailleuse et il a une réputation assez brutale. Merlus, je le précise, désigne une morue en occitan. Alors au début, les enfants redoutent ce surveillant qui leur impose une discipline stricte et semble sans pitié. Il est taciturne, autoritaire, il est peu souriant. Il leur fait suivre une certaine routine un peu rigoureuse. Donc ce traitement provoque la grogne et la peur parmi les élèves, en particulier chez certains qui sont assez intelligents mais fragiles. Mais peu à peu, les enfants découvrent une autre facette de Merlus. Il décache un grand cœur sous sa rudesse et comprend les souffrances de ses enfants abandonnés ou négligés et va chercher à sa manière à les aider. Alors il leur apprend la rigueur, mais bien sûr l'entraide, la dignité, la patience. Il va s'intéresser à chacun, parfois maladroitement, mais toujours avec sincérité. Surtout qu'il nous voit pas arriver, c'est ça qui est beau. À l'approche de Noël, Blanchard fait preuve d'une générosité inattendue. Il improvise une petite fête secrète, cachette, trouve un sapin et parvient à offrir à chacun un petit cadeau. Il se révèle touchant et profondément humain, et les enfants, d'abord méfiants et moqueurs, finissent par le reconnaître, reconnaissent son dévouement et son affection.
Regardez-moi cette gueule. Au roi des salauds. Le plus vache de toutes les vaches du mois d'entier. Moi, je le connais, je l'ai eu 2 mois de 3e étude. C'est le plus pire de tous les lycéens.
Pourquoi on l'appelle Merlus ?
Parce qu'il a la morue.
C'est drôle, moi, je ne sens pas.
Parce que tu es en plein air. Mais en étude, tu vas voir. Il sent la morue.
Moi, je m'en fous qu'il sente la morue. Pourvu qu'il ne nous fasse pas du mal. Qu'est-ce qu'il peut nous faire ?
S'il va t'éteindre, il te les vole parce qu'il en fait la collection.
Moi, je m'en fous, j'en ai pas de thème. À part ça, qu'est-ce qu'il peut nous faire ?
Qu'est-ce qu'il peut te faire ? Il peut te faire un père. Et ça, c'est terrible.
Merlus n'a aucune ambition de carrière. Il est perçu comme un sous-homme dans le cadre rigide du lycée. Il est pauvre, rustre, sans élégance et surtout sans réseau. Pourtant, c'est lui qui incarne les vraies valeurs éducatives. La patience, la justice, l'attention à l'enfant. Là où les autres membres de l'institution sont soucieux d'ordre, de réputation ou de hiérarchie, Merlus, lui, se concentre sur le bien-être moral et surtout affectif des enfants. Il ne cherche ni à plaire à ses supérieurs ni à obtenir une promotion. Il accepte de rester, par exemple, dans l'établissement pendant les vacances pour veiller sur les élèves délaissés, hein, une tâche qui est pénible et que d'autres ont refusée. Ce désintéressement marque, hein, une profonde critique sociale, hein, ceux qui se montrent les plus humains ne sont pas forcément ceux qui sont les plus valorisés. D'un point de vue cinématographique, Merlus pourrait presque, hein, passer inaperçu tant il est dépouillé, hein, dans la carrière de Pagnol. C'est un huis clos, hein, peu de personnages, quasiment pas de musique, hein, qui vient fanfaronner ou faire monter un suspense. Et pourtant, bah, c'est dans cette simplicité que réside sa force. Pagnol n'a pas besoin de spectaculaire, hein. Son sujet, les peines de cœur et le besoin d'affection de l'enfance, les préjugés moraux et le don de soi via un altruisme total car désintéressé, suffisent à faire l'affaire. Il met en scène ce qu'on pourrait appeler, bah, une liturgie du réel.
Oui, bah écoutez, la deuxième classe, alors franchement, ça je m'en fous. Oui, parce que moi aussi, ce matin, dans mon soulier, j'ai trouvé quelque chose. Tenez, trois billes, dont une agate, une montre sans aiguille, des caramels à peine sucés, une médaille de Saint-Christophe, et une promesse de nomination de Premier ministre de sa future majesté, Tan Van Do.
C'est encore un coup du Père Noël.
Mais non, monsieur le proviseur, c'est bien plus beau. Le Père Noël, il est vieux, il a une barbe, il est presque aussi laid que moi. Non, ceux qui ont rempli mon soulier, ce sont les enfants de Noël. Et tenez. Regardez ce timbre. Regardez comme il est beau.
Vous en faites une collection ?
Oh, parle-moi du monde. Je n'en connais ni le classement ni la valeur. Mais celui-là, je sais son prix. C'est Villeporto qui m'a donné. Et il disait aux autres. Il est rare. Bien, je crois bien qu'il est rare. Un vieux timbre déchiré, donné comme un trésor par un enfant, j'aime mieux ça que la deuxième place.
Dans le rôle de Merlus, un Pagnol choisit Henri Poupon, hein, un acteur qu'il affectionne et qui dirigera très souvent si vous êtes un fidèle de sa filmographie. Il en fait une figure presque dixienne, hein, à mi-chemin entre le père Fouettard et le sauveur silencieux. Alors, hein, à la Charles Dickens, hein, parce que Pagnol est professeur d'anglais, hein, il faut se le rappeler au début. Hein, donc l'affiliation n'est pas étonnante. Poupon, hein, donne au personnage, bah, une humanité farouche, hein, une rudesse qui cache un cœur immense. On comprend vite que s'il est dur, bah, c'est parce qu'il a lui-même beaucoup souffert. Merlus est aussi un hommage discret à l'école républicaine et à ceux qui la font vivre dans l'ombre. Pagnol, hein, ancien élève boursier, fils d'instituteur, célèbre ici les gens qu'on oublie, hein, c'est-à-dire les élèves pauvres, les orphelins, ceux qu'on pourrait appeler les pas gâtés. Hein, il donne une voix aux humiliés, hein, mais sans aucun misérabilisme. C'est un film profondément social, hein, Merlus, mais ça qui est beau, sans démonstration. C'est un film qui fait du bien, un film de Noël avec le plus beau des cadeaux, une foi sincère en la bonté humaine, même sous des dehors des plus rugueux, soit la plus belle des leçons de tolérance.
Merci Guillaume, tu reviens la semaine prochaine avec un nouveau film de Marcel Pagnol. On passe à la partie actualité de Cinérama de cet été. Une confrontation entre le shérif et le maire d'Indington, mais le feu aux poudres. Nous parlons du nouveau film d'Ari Aster.
Dites-le.
Cinérama.
C'est très clair.
On pensait à Ari Aster abonné aux cauchemars domestiques, aux sectes païennes et aux traumas enfouis. Après Hérédité en 2018, Midsommar en 2019 et le délirant Beau is Afraid en 2023, le voilà qui met en scène les ténèbres intérieures dans un western en pleine pandémie paranoïaque et saturé de réseaux sociaux. C'est un vieux rêve, hein, pour le cinéaste que de se frotter au genre du western, mais il aura fallu attendre 2020 et le chaos du Covid pour qu'il s'y autorise et commence à écrire Eddington. Attention, hein, l'horreur est toujours là, une horreur collective. Eddington, c'est une Amérique fracturée en huis clos, un pays perdu dans son propre reflet, et Ari Aster, en maître de l'horreur et maître de cérémonie d'un psychodrame national, utilise des enjeux locaux pour mettre en scène une angoisse contemporaine. Une angoisse virale, au sens le plus littéral, hein, face au fameux SARS-CoV, mais viral aussi au sens numérique. Bienvenue à Eddington, petite ville du Nouveau-Mexique en pleine pandémie de Covid-19. Le maire sortant, Ted Garcia, incarné par Pedro Pascal, hein, tout en sourire carnassier, s'apprête à signer un projet de data center gigantesque aux portes de la ville, hein, c'est-à-dire en plein désert, frappé par une sécheresse historique. Face à lui, Pas d'opposition politique officielle, hein, du moins au départ. Joe Cross, le shérif local, interprété par Joaquin Phoenix, hein, déjà dans « Beau is Afraid d'Astor », s'illustre, lui, comme un homme plutôt intègre hein, face au corrompu maire en poste. Ce Joe Cross, il est un peu dépassé quand même, hein, entre son épouse fragile, Louise, interprétée par Emma Stone, sa belle-mère envahissante, un commissariat sous pression et une ville sur le déclin. Et tout s'accentue le jour où, asthmatique, hein, il refuse de porter son masque dans un supermarché. L'incident filmé devient viral et inflige au shérif une énième humiliation publique. Cross explose et décide donc de se lancer dans la campagne municipale contre Garcia en l'annonçant sur son compte Facebook. Dès lors, la ville s'embrase, les fake news prolifèrent, les complots fleurissent, les réseaux sociaux s'emballent, les tensions hein, raciales et sociales qui sont catalysées par le meurtre de George Floyd hein, et les manifestations Black Lives Matter qui en ont suivi s'invitent dans le débat. Et dans cette atmosphère de plus en plus irrespirable, Eddington implose et plus personne ne s'écoute. Ari Aster a toujours aimé pousser ses personnages dans leur retranchement, mais Eddington franchit un cap. Ici, tout le monde est déjà au bord d'un gouffre dans lequel le contexte historique hein, les pousse. L'idée brillante et théâtrale hein, consiste à transformer la contrainte du masque en outil de mise en scène. En imposant la fameuse distance de sécurité à ses personnages, 6 feet, chaque interaction devient un duel cadré par cette distance. Le western se joue désormais à 6 pieds l'un de l'autre. Et si le film, bon, semble un peu s'éparpiller, c'est peut-être aussi sa plus grande force en superposant tous les grands marqueurs de l'année 2020, le Covid évidemment, le mouvement Black Lives Matter, les fake news, la culpabilité blanche, l'écologie versus la tech, les gourous sectaires, les théories du complot, la libération de la parole sur les violences sexuelles. Aster capte quelque chose de notre époque, son accélération, sa confusion et sa brutalité. C'est une mosaïque violente et délirante qui se dessine sans hiérarchie, où tout est vrai, tout est trop et tout est surtout immédiat. Les personnages, eux, finissent par disjoncter hein, et ils nous échappent. Joe Cross perd notre empathie peu à peu en basculant de l'autre côté du curseur moral dans un climat de psychose généralisée. L'ambition d'Aster est à la hauteur de la déflagration. Hein. Le western sert de terrain d'affrontements multiples et désordonnés à une société en pleine dislocation. Et même si on pourrait penser parfois aux frères Cohen hein, pour leur regard sur l'Amérique en crise, on ne retrouve pas ici l'ironie tendre qui les caractérise. Chez Aster, tout s'enlise. Sans prendre de recul, il plonge dans le chaos, souscrit à la violence ambiante et n'épargne personne.
Eddington avec Pedro Pascal et Joaquin Phoenix, ça en jette, est en salle depuis le 16 juillet. Au début du XXe siècle, deux orphelins irlandais traversent les États-Unis à la recherche de leur oncle. Nous parlons de Buffalo Kids.
Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma.
Cinérama. Cinérama.
Nous en parlerons tout à l'heure.
Wow, New York.
Wow. T'as une tête de Sparky.
La Californie, c'est à des milliers de kilomètres d'ici.
Eh ben, on n'a qu'à prendre les trains.
On connaissait hein, les westerns américains, hein, fondateurs d'un genre cinématographique qui aura dominé le monde pendant plus de 50 ans. On connaît aussi bien hein, le western italien qui aura pris la relève à partir des années 60 et poussé le genre à se réinventer. On connaît par contre au moins les westerns espagnols, hein, même si historiquement, beaucoup de productions italiennes ont planté leur caméra à Almeria hein, pour filmer une bonne partie de leur long métrage. On découvre donc aujourd'hui le western espagnol d'animation avec Buffalo Kids, hein, du duo Juan Jesús Garcia Galocha et Pedro Solis Garcia. Si doute il y avait hein, de se motiver pour voir un western chorizo pour enfants, un rapide coup d'œil à la filmographie des réalisateurs montre hein, qu'ils continuent à utiliser l'animation pour rendre un hommage sincère et enjoué à tout un pan du cinéma qu'ils aiment, et en particulier le cinéma populaire américain. Il y a eu le film d'aventure à la Indiana Jones avec Tad l'Explorateur et le film de momie avec Sacré Momie. Il y a désormais pour leur première co-réalisation leur propre version de la conquête de l'Ouest avec Buffalo Kids.
Tu vas où comme ça? Oncle Nailleul ne viendra pas.
On va aller le trouver. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il ne parle pas?
Il dit tout avec les yeux. Il n'a pas besoin de parler.
On va pouvoir s'emparer facilement de ce train.
Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure?
Qu'on gardait Sparky jusqu'à ce qu'on trouve Oncle Nailleul. Est-ce qu'on l'a trouvé? Non. Alors voilà.
Alors, Conquête de l'Ouest, pas littéral, hein, mais tout comme, hein, puisque nous suivons deux enfants, Marie et Tom, découvrant le nouveau monde et que c'est à travers leurs yeux que nous nous plongerons de plus en plus en profondeur dans un pays aussi tourmenté que leur périple pour retrouver leur oncle. Alors, ce dernier ne s'étant pas présenté à l'arrivée de leur bateau, hein, manière pas forcément subtile de faire un petit clin d'œil, hein, à l'introduction mythique du Parrain 2 et à la vie des voyageurs de troisième classe du Titanic de James Cameron, ben, ils vont tenter, hein, de le retrouver dans une terre aussi grande que sauvage. Alors, il est d'ailleurs amusant, hein, de noter que Marie, hein, en voyant la Statue de la Liberté, pense qu'elle n'est pas pour elle. Hein. Une scène qui peut être mise en lien avec l'introduction très marquante de The Brutalist, hein, lui aussi sorti cette année. Alors les regards, hein, des immigrés sont pétris de doutes, hein, et le rêve américain n'est plus sûr de faire rêver. En tout cas, pas tout à fait comme avant, car, hein, si on retrouve tous les codes du western dit classique avec cavalerie, indien, train attaqué et grand méchant patibulaire, les auteurs prennent ici aussi soin de détourner toutes ces figures pour livrer une réflexion plus nuancée que certains de leurs prédécesseurs hagiographiques. Alors rendons à César ce qui appartient à César, hein, dans l'histoire récente, hein, Disney n'avait pas hésité à bousculer les codes du western classique dans l'excellence de Lone Ranger de Gore Verbinski, mais le bide avait été énorme, peut-être à la hauteur des risques narratifs qu'il a pris et que prend aussi Buffalo Kid.
Que personne ne bouge.
Ma mamie disait qu'il ne faut jamais renoncer. Promets-moi de suivre ce conseil.
Buffalo Kids, bientôt au cinéma.
Car c'est l'angle d'attaque du film qui le rend au final si intéressant et attachant. Buffalo Kids fait en sorte de montrer les Indiens sous un aspect intégralement positif, servant d'alibi, hein, et de fausse piste pour cacher les exactions des vrais méchants, menés par un vilain reprenant les traits de Lee Van Cleef, hein, dans les films de Sergio Leone. Buffalo Kids choisit aussi de faire d'un enfant handicapé moteur et en chaise roulante un des personnages principaux, rejoignant très vite Marie et Tom dans leur quête de famille. Alors si l'on pouvait craindre une volonté de remplir les quotas qui sont officiellement imposés au tout Hollywood pour espérer faire vivre une œuvre, détruisant parfois la cohérence d'un récit au profit d'une discrimination positive, il est extrêmement satisfaisant de voir que les auteurs ont au contraire su traiter l'arc narratif important de ce personnage au mieux et d'en dégager une action et une émotion sincères. Ce n'est pas étonnant, hein, vu que Pedro Solis Garcia s'est inspiré de son propre fils, Nicolas, décédé peu après le lancement du projet et à qui le film est naturellement dédié. Alors oui, hein, il y a un design des personnages malheureusement trop proche de ce qui se fait aujourd'hui dans les films d'animation, rendant l'ensemble un peu impersonnel, et on n'évite pas les blagues à base de prout, hein, parce qu'on pense encore qu'en 2025 que les enfants, bah, ne pourront pas s'en passer, mais pour toutes les qualités précitées, elles sont importantes, Buffalo Kids est une belle sortie pour toute la famille, une aventure trépidante et émouvante qui a un vrai cœur, et ce n'est pas toujours le cas dans l'animation moderne.
Buffalo Kids est en salle depuis le 9 juillet. Allez, on parle vite d'un autre dessin animé Falcon Express.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
Cinérama.
Votre identification vocale est terminée.
Oui, alors il est sorti il y a un peu plus d'une semaine, hein, il a cartonné pour la fête du cinéma, mais je tenais à en parler un petit peu parce que c'est un film d'animation toulousain, hein, il vient des studios TAT, et c'est encore une belle réussite, hein, surtout elle est assez originale. Alors elle est originale pas forcément dans le graphisme un peu passe-partout, comme Buffalo Kids dont on parle dans cette émission, mais surtout par son sujet. Ce que je trouve génial, c'est que les deux réalisateurs, Benoît Dafis et Jean-Christian Tassi, s'amusent à parodier absolument tous les films d'action des années 80 et 90 avec des animaux. Hein, donc ça va de Piège à grande vitesse à Speed, hein, en passant par Runaway Train, hein, et Piège de cristal. Et ce que je trouve aussi vraiment notable, c'est que le film a clairement une volonté internationale, hein, comme les autres projets du studio TAT, mais ils revendiquent quand même leur patte française grâce à un personnage que tout le monde a adoré, c'est un canard qui est toulousain, qui est fan de l'Ovalie et qui n'arrête pas de faire des couin-couin de motivation auprès de nos personnages. Donc rien que pour ça, et vraiment rien que pour ça, allez voir Falcon Express et vous verrez que tout le reste va aussi vous plaire.
Alors, le précédent film de TAT, c'était une histoire mythologique avec Poséidon. Ouais. Et puis là, donc, c'est l'histoire donc, d'un râteau laveur qui va déjouer les plans d'un blaireau rancunier. Et donc, c'est encore en salle et vous pouvez emmener vos enfants, évidemment.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Ça s'impose.
Mais pour quelle raison?
Qu'est-ce que vous racontez? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Je ne connais pas la réponse moi-même.
Comme vous êtes bizarre.
Oui.
C'est difficile de répondre.
C'est une plaisanterie!
On se retrouve la semaine prochaine avec nos deux séries estivales, l'une sur les bandes originales de films et puis l'autre sur Marcel Pagnol, et tu nous parleras d'un film très connu.
Mais oui, c'est César, la conclusion de la trilogie marseillaise.
À la semaine prochaine.